L'Odyssée des ondes avec Liam de Carry.
Bonjour à tous, vous écoutez Transistor sur le 100.4 et aujourd'hui nous vous emmenons à la chocolaterie Châtillon à Plébin. On va interviewer Renaud Chérel.
Bonjour à tous.
La chocolaterie Châtillon se situe à côté de l'enclos de l'église de Plébin. Vous ne pouvez pas louper l'entrée.
Fondée par Michel Châtillon et a été reprise par Renaud Chérel. Nous écoutons.
Vous pouvez vous présenter en quelques mots.
Oui, bien sûr. Bah, vous êtes dans la chocolaterie Châtillon. Chocolaterie Châtillon qui, à l'origine, a été créée par mon beau-père en 1965, Michel Châtillon. Il a démarré son activité à Brest. Il était pâtissier chocolatier. Il est venu s'installer à Plébin en 1991. Et depuis 2014, moi, je l'ai accompagné, je l'ai rejoint. Alors, moi, à la base, je n'étais pas chocolatier. Hein. Je travaillais à Pont-de-Buis, dans les airbags. Voilà. Mais j'ai toujours été attiré par la gastronomie. Donc, voilà, j'ai rejoint mon beau-père. Et puis, depuis 2021, bah, j'ai repris les rênes complètement de l'entreprise. Voilà. Et donc, on fabrique des biscuits, on fabrique des chocolats et on fabrique de la confiserie. Donc on a une boutique ici que vous pouvez visiter avec la ligne de production qui est juste derrière, et puis on fournit aussi tous nos produits, tout ce que vous voyez, hein, tout ce qui est sur ce pan de mur là, il est fabriqué ici. Alors on est à la radio, donc voilà, on imagine. Mais on les fournit aussi à un réseau d'épiceries fines, de produits régionaux, de revendeurs un peu partout en France, beaucoup en Bretagne et à l'étranger, jusqu'au Canada.
Quelle sorte de chocolat fabriquez-vous ?
Ah, on a fait avec une grande variété de chocolats. Donc, on a déjà les chocolats que vous avez pu voir dans le meuble à chocolat. Donc, on a une vitrine à chocolat dans laquelle on va retrouver 25 sortes de chocolats. Dans ces chocolats, il y a plusieurs grandes familles. Il y a les pralinés, donc ce qui est à base en fait d'amandes ou de noisettes mélangées avec du sucre. Donc, on fait une pâte de praliné, on mélange avec du chocolat, ça fait un praliné. On va avoir les ganaches. Donc les ganaches qui sont à base de chocolat et de crème et qu'on va aromatiser avec du fruit, avec du café, avec multitude de produits. Et on va avoir les pâtes d'amande ou ce qu'on appelle aussi les massepains. Donc nous on en fait deux sortes, on fait la pistache qui est un massepain à base d'amande mais avec des pistaches et puis un massepain à la noix où en fait on va faire une pâte d'amande, moitié amande, moitié noix. Et le dernier produit, c'est la pâte de fruits enrobée. Donc là, on a une mandarine dans notre vitrine, mandarine enrobée de chocolat noir. Voilà les produits. Puis après, en dehors de ça, ben, on va faire des tablettes de chocolat. Donc on a une grande variété de tablettes de chocolat. Et on a démarré une activité depuis, ça fait maintenant 4 ans, c'est ce qu'on appelle le bean to bar en anglais, de la fève à la tablette en français. C'est je sélectionne des fèves un peu partout dans le monde et je les transforme en fait ici en chocolat. Ce qui fait qu'on a des chocolats d'origine garantis et on passe dans un mode de dégustation différent.
Comment faites-vous pour importer les fèves de cacao ? De quel pays viennent-elles ?
Bah, c'est une excellente transition. Donc bah, les fèves de cacao, c'est un marché en bourse. Hein, le cacao, il est coté en bourse. Et du coup, on va passer par des courtiers qui, eux, vont me proposer des fèves d'un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on a 12 origines. Donc on va aller des Philippines, en passant par l'Afrique noire et en allant sur les Caraïbes et après l'Amérique du Sud. Donc on a 12 origines qui viennent un peu de partout. Il y a des années où on va pouvoir récupérer des origines particulières et puis des années où ça va être compliqué d'avoir certaines origines. Quand j'ai démarré l'activité Bean to Bar, par exemple, j'avais le Papouasie-Nouvelle-Guinée qui était très particulier parce qu'en fait, il a un côté tourbé, fumé. Parce qu'en fait, quand la fève de cacao est mise à sécher, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il fait tellement humide que les tribus là-bas les font sécher dans des grands fûts qui font tourner et mettent le feu en dessous. Mais les fûts sont un peu percés et la fumée rentre dans le fût et ça donne un côté fumé à la fève de cacao. Et là, ben, ça c'est des choses que depuis 3 ans, je ne suis plus capable de recevoir en fait. Donc il y a certaines origines comme ça où c'est très limité. Et à côté de ça, nous on fait partie du réseau Chocolatier Engagé. C'est un réseau, c'est une association française qui met en avant en fait des origines particulières. Et dans nos origines, on a le Cameroun, où en fait on va demander. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture du cacao, il y a quelques petits problèmes éthiques, on va dire, avec le travail des enfants. Et donc là, on va demander un cahier des charges pour éviter justement le travail des enfants, une bonne rémunération des récoltants, et ainsi de suite.
À Fef de cacao au chocolat.
Bah ça, c'est une bonne question. Donc en fait, la fève de cacao, d'abord, c'est un arbre. Le cacaoyer, c'est un arbre. Donc on va avoir des grosses cabosses qui vont pousser sur le tronc des arbres. La fleur, elle apparaît sur le tronc de l'arbre. Elle se transforme en grosses cabosses. On va, quand la saison est arrivée, il y a deux saisons de récolte dans l'année. Il y a deux récoltes dans l'année, hein, du cacao. Quand la fève est arrivée, la cabosse est arrivée à maturité, on va prendre les cabosses, on va les ouvrir, on va enlever les fèves qui sont à l'intérieur. Donc il faut imaginer comme si on vidait un melon, et on va prendre les graines, et puis on va les mettre à fermenter. C'est important, il y a une phase de fermentation de la fève de cacao qui va donner, justement, qui va faire cette transformation et qui va donner ce goût particulier au cacao. Et suite à la fermentation, il va y avoir un séchage qui va être fait aussi sur place. Hein. Donc ces phases-là, elles sont faites au niveau des récoltants, dans les fermes. Et ensuite, ces fèves, elles vont être, une fois qu'elles sont séchées, donc ça, c'est un processus qui va avoir la fermentation 5 jours, et le séchage 5 jours à peu près aussi. Donc on a une récolte au bout de 10 jours. Ça va être mis en sac. Et après, en fonction des pays, alors ça, c'est ça qui est intéressant, soit ça va être amené à la coopérative, soit c'est chaque récoltant va vendre ses propres sacs à quelqu'un qui va venir les chercher dans la forêt. Parce qu'il faut imaginer qu'on n'est pas en France, on est en pleine forêt. C'est des pistes. Alors c'est des chemins d'abord, puis après c'est des pistes, après c'est des espèces de routes, et puis après on a vraiment un réseau routier qui va bien. Ça, c'est vrai en Afrique noire. Et pour information, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est 60% de la production de cacao dans le monde. Et pour autant, c'est la même façon de produire que partout. C'est des petits récoltants qui font ce travail en fait de travail de la fève. Donc moi, après, je récupère ces fèves, les fèves que vous verrez tout à l'heure. Je vais devoir les trier, parce qu'en fait, on se rend compte que dans les sacs, ben, il peut y avoir des plumes, des cailloux, un peu de tout. Donc on va les trier. Ensuite, on va les torréfier. Donc on va les faire cuire légèrement en température, un peu comme le café. Et puis après, il va falloir les broyer et enlever la peau qui est autour de la fève. Donc on appelle ça le vanage. Et une fois qu'on aura fait ça, on obtient le gruet de cacao. Donc le gruet de cacao, c'est la fève qu'on va avoir du gruet, et ce gruet, on va venir le broyer dans un moulin. Donc c'est des pierres, des rouleaux en granit qui vont tourner et qui vont venir écraser les gruets. Et le gruet, comme c'est composé à moitié de fibres et de gras, 50%, le beurre de cacao, bon, on va obtenir cette pâte de cacao à laquelle on va venir ajouter du beurre et d'autres ingrédients en fonction du type de chocolat qu'on va vouloir obtenir.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter le titre Un monde nouveau de Feu Chatterton.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays très chaudement. Dans un bain de foule dévot à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Tous sans n'y comprendre rien à la loi la nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Boum, les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Retrouve Renaud Chérel, dirigeant de la chocolaterie Châtillon.
On fait comment de Kyo tant année?
Alors, de cacao.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on transforme des fèves de cacao, et là, on en transforme à peu près 3 tonnes à l'année. Et après, j'achète aussi du chocolat, parce que je n'ai pas suffisamment de capacité pour faire tous les chocolats que je fabrique. Et donc j'achète du chocolat à un fabricant de chocolat, qu'on appelle un couverturier. C'est ce que font 90% des chocolatiers. Ils achètent du chocolat de couverture. Et là, j'en achète 20 tonnes.
Est-ce que vous faites du chocolat blanc? Pourquoi est-il si différent du chocolat traditionnel?
Alors, ouais, la grande question, est-ce que le chocolat blanc est un chocolat? Oui, le chocolat blanc est un chocolat parce qu'en fait, on va utiliser quand même une partie du cacao qui est le beurre de cacao dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on prend une fève de cacao, si je la presse, je vais extraire du beurre de cacao d'un côté et je vais obtenir de la poudre de cacao, la poudre noire de cacao Van Houten de l'autre côté. Voilà les deux éléments que je vais recevoir. Je vais utiliser ce beurre de cacao, je vais mettre de la poudre de lait et du sucre et je vais obtenir du chocolat blanc. Mais ça reste du chocolat parce qu'en fait, on utilise le beurre de cacao. Si maintenant je rajoute la poudre de cacao en plus, mais je vais avoir du chocolat au lait. Et puis si je mets pas de poudre de lait, j'ai du chocolat noir.
Fabriquez-vous des chocolats avec des goûts originaux?
Oui. On a une spécialité qui s'appelle le cœur de Plougastel. C'est une ganache à la fraise de Plougastel. Donc on achète des fraises quand c'est la saison, ou après qu'elles sont surgelées, mais elles sont cueillies à la saison. On va en faire une ganache, on va l'enrober de chocolat avec notre chocolat de couverture qui est chocolat origine, et on va venir dessus lui mettre une petite pâte de fruits à la fraise de Plougastel aussi. Voilà, qu'on retrouve, qu'on vend très très bien. J'ai créé ça en 2018 et depuis c'est un vrai succès.
Ouais.
Est-ce qu'on peut avoir du chocolat en France?
Est-ce qu'on peut cultiver du cacao
en France?
La question est excellente. À votre avis?
Non.
Vous diriez quoi?
Non, c'est pas.
Ça dépend. Quelle France? La France métropolitaine ou la France globale? Eh oui, donc on fait du chocolat en France, puisqu'on en fait à la Martinique, on en fait en Guyane, on en fait à la Guadeloupe. Alors, ceux qui en font le plus, c'est les Martiniquais. Et quand je dis le plus, c'est pas grand-chose. C'est des tout petits volumes. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on peut faire du cacao? Le cacao, il pousse dans la ceinture équatoriale. Donc, je peux en faire partout dans le monde à partir du moment où je suis dans des conditions équatoriales, chaudes et humides. Et c'est pour ça qu'il y a eu une crise aussi du cacao il y a 2 ans, dont je vous en parlais tout à l'heure. C'est que donc 60% du cacao vient du Ghana et de Côte d'Ivoire. fabrique, enfin, il cultive le cacao comme nous, on cultive le maïs en Bretagne, c'est-à-dire qu'on rase tout, on plante, et puis, ben, s'il fait beau, tant mieux, s'il y a du gel, c'est perdu, s'il y a de la sécheresse, c'est perdu. Ben, là-bas, c'est pareil. Avant, il n'y avait pas trop de changement climatique. Aujourd'hui, on subit le changement climatique. Alors, on pense que nous, on le subit plus qu'en Équateur. Non. L'Équateur, ils subissent presque plus que nous, parce qu'en fait, ils ont des zones de sécheresse et des zones d'inondation importantes. Et c'est pour ça que le cacao, en fait, ils n'ont rien fait pendant une année. Donc, il y a des solutions. Hein. Mais après, il faut que, comme c'est très étatique, le mode de fonctionnement et de programmation et de planification, c'est même de la planification hein, pour la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est en fait, ils ont décidé de continuer à raser tout, planter du cacao, ça passe pas, tant pis. Alors que d'autres régions, l'Amérique du Sud, ils sont en agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est vraiment ce que nous aussi, on prône pour notre chocolatier engagé. Toutes nos fèves de cacao, elles sont en agroforesterie, c'est-à-dire qu'on va avoir un couvert végétal, un sous-couvert végétal et le cacao en dessous. Alors, en général, le grand couvert végétal, ça peut être des grands arbres, le sous-couvert des bananiers, puis après les cacaoyers en dessous. Forcément, le rendement à l'hectare est beaucoup plus faible, mais on est robuste et résilient, en fait, aux événements climatiques. Et puis, ça permet aussi de faire de la mangue, de faire d'autres fruits, en fait, en complémentarité. Puis, on le sait bien, de toute façon, même si en France, on ne fait pas beaucoup hein, d'agroforesterie, on est bien pour expliquer aux autres comment faire, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais dans les milieux agroforestiers, en fait, on va avoir des qualités de plantation qui vont être largement meilleures, en fait. C'est un peu la permaculture en France sur les petites permacultures où en fait on va aller mettre une salade, un oignon et un plant de haricots verts. Quoi. Ben, ça se passe mieux. Après, pour la grande industrie, c'est compliqué, on peut l'entendre. Mais en agroforesterie, ça passe quand même assez bien. Quoi.
Utilise quoi comme machine pour faire du cacao ?
Ben, en fait, on va avoir besoin du chocolat. Ouais. J'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on le trie. Donc là, pour trier, on a un tapis. On a un tapis de tri, on est deux autour, il y a un chargement, on charge, et puis ça arrive, et puis on trie les fèves. Ensuite, on va torréfier les fèves, donc on va les mettre sur plaque, sur une échelle, vous verrez tout à l'heure, et en fait, l'échelle, on la met dans un four, et ça va tourner, il y a de l'air qui va passer, de l'air chaud, et puis on va torréfier les fèves. Une fois qu'on a torréfié les fèves, il faut les broyer, donc là, on a un broyeur avec un système d'aspiration qui va, pendant que ça broie, va aspirer aussi toutes les peaux. Et donc, on récupère les fèves, et enfin, on a un grand moulin, avec deux rouleaux en pierre qui vont permettre de faire le travail. Et donc là, ben, le travail de la transformation de la fève de cacao, chez nous, ça prend à peu près 4 jours. Entre le moment où on démarre on a décidé de lancer une production et le moment où on va récupérer le chocolat.
Parlez-nous des visites de l'atelier. Est-ce que c'est quelque chose de courant ou de rare ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Chatillon, il doit y avoir un diplôme, là. Il a été un des premiers hein, à ouvrir son entreprise au public et au tourisme. Et il a eu le prix en 93, je crois. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ouvrent leur porte à la visite. Nous, du coup, ben, l'atelier, il a été construit en intégrant une visite à l'intérieur. Donc, ça, il faut le prévoir. Et on a aussi une vidéo qui montre aussi en plus tout ce qu'on ne peut pas voir pendant la visite. Mais c'est quelque chose qui était rare et qui l'est de moins en moins. Et aujourd'hui, en Bretagne et même en Finistère, il y a un réseau qui s'appelle le Secret de nos boîtes. Je crois qu'il est carrément breton, le réseau. Et en fait, on a une carte avec toutes les entreprises qu'on peut visiter. Comme ça.
Enfin, la question piège. Quel est le chocolat le plus rare ou le plus précieux de la boutique ?
Moi, je ne suis pas dans le rarissime ou dans la préciosité. Après, c'est sûr que pour des grands amateurs de chocolat, les tablettes, de la fève à la tablette, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, ça se compare un petit peu au grand vin en fait en dégustation. Quoi, hein. Entre une tablette chocolat lait ou chocolat noir, qui est là pour le plaisir, hein. On va prendre du plaisir, c'est très très bien. Mais en dégustant une tablette d'origine, il se passe vraiment plein d'autres choses. Quoi. Et après, pour les grands amateurs, on a une tablette Madagascar où il n'y a pas de sucre, il n'y a que du cacao. Voilà. Pour les grands amateurs.
Du 100%.
98%, parce qu'en fait, 100%, c'est pas du chocolat. parce que le législateur a défini que le chocolat, il fallait du sucre. Bon, le législateur, on le laisse, hein. Voilà. Donc si je veux appeler ça chocolat, il faut que je mette un peu de sucre.
Merci.
L'Odyssée des ondes, avec l'IME de Carrie.